Bon matin. Si vous n'étiez pas réveillé, le teaser est là pour vous réveiller. Content de vous voir aujourd'hui avec vos sourires, et même si vous avez vos masques, on voit vos sourires quand même. Sentez-vous à l'aise aujourd'hui, mais on est vraiment heureux de vous voir revenir. Avec le printemps, c'est la nouvelle belle saison qui arrive. J'ai l'impression que je me sens revivre. Pas comme si j'avais hiverné, mais dès que le printemps arrive, le beau temps, c'était bon, n'est-ce pas? Toute la semaine dernière, on a profité du soleil. Apparemment, à partir de demain, ça redescend à 15. Peut-être la semaine prochaine, vous aurez à déneiger, mais au moins, on célèbre les petites victoires. On est heureux de vous voir aujourd'hui, alors qu'on commence cette nouvelle série sur le livre des Proverbes qui s'intitule « Mieux vivre ». Et combien savent que le plan de Dieu pour l'humanité, c'est de continuellement mieux vivre les plans que Dieu a pour nous. Qu'on puisse voir comment suivre la parole de Dieu dans toutes les sphères de notre vie. Et le livre de Proverbes, si vous ne savez pas où c'est à peu près à la moitié de votre Bible, c'est dans l'Ancien Testament. C'est un livre qui a été écrit il y a des millénaires, mais qui est autant efficace et pratique pour notre vie d'aujourd'hui. Parce que la parole de Dieu, c'est pas juste un recueil de bonnes pensées d'il y a longtemps. Non, c'est une parole que Dieu nous donne. Et à chaque fois qu'on l'ouvre, l'Esprit de Dieu vient nous parler à travers la parole de Dieu. Combien sont reconnaissants pour une parole qui est actuelle et pertinente? Est-ce qu'on peut applaudir la parole de Dieu qui nous est donnée pour qu'on puisse continuer à vivre notre vie et à continuer de comprendre ce que Dieu veut pour nous? Le livre des Proverbes, c'est un livre qui est simple à lire, mais qui est tellement profond. Je pense que c'est le premier livre que j'ai commencé à lire quand j'ai reçu ma première Bible à 16 ans. Ma grand-mère m'avait offert ma Bible pour mon baptême. Et c'est le premier livre que j'ai lu parce qu'il est simple à comprendre. C'est comme des punchlines, c'est comme les tweets de Dieu. Il donne en 140 caractères vraiment une vérité punch, facile à comprendre. Mais quand on l'étudie, au plus on voit qu'elle est profonde, il y a une vérité qui est incroyable. Je le lisais et comprenais à 16 ans, mais quand je l'étudie aujourd'hui, des dizaines d'années après avoir été chrétien et puis avec un bac en théologie et tout ça, ça continue de m'émerveiller parce que la parole de Dieu est incroyable. À celui qui la cherche, elle se révèle. Est-ce que vous cherchez ce que Dieu a prévu pour vous aujourd'hui? J'espère que vous êtes venus, non pas seulement passif en disant « je viens juste recevoir », non, je viens chercher la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a pour toi? Et celui qui a le cœur ouvert, Dieu veut lui parler. Est-ce que je peux entendre un amen? Alors, le livre des Proverbes, c'est vraiment un livre simple mais profond, rempli de sagesse, parce qu'on a besoin de la sagesse de Dieu. Aujourd'hui, beaucoup de personnes recherchent l'intelligence, la science, les choses qui... Et puis, la parole de Dieu nous encourage à être intelligents. Des gens qui recherchent, des gens qui avancent, des gens qui développent. Mais on doit absolument rechercher la sagesse qui vient de Dieu. Et j'aime cette anecdote qui dit, quelle est la différence entre un homme sage et un homme intelligent? Est-ce que vous la connaissez? L'homme intelligent va régler des problèmes que l'homme sage aura su éviter. Ça commence à se rendre, je vais la répéter. L'homme intelligent va régler des problèmes que l'homme sage aura pu éviter. Il y a un côté où la sagesse qui nous vient de Dieu nous montre le bon chemin. Et parfois, la sagesse de Dieu paraît folle à la sagesse des hommes. C'est là où tu te dis, regarde, quand je vais me marier, je vais être fidèle à une femme jusqu'à ce que la mort nous sépare. Notre société dit, non, c'est pas comme ça qu'on le fait. Mais en fait, les couples qui voient, il y a des statistiques qui ont été faites que les couples les plus heureux sont les monogames jusqu'à la fin de leur vie parce qu'ils bâtissent quelque chose de plus en plus et que ça va. Oui, il y a des émotions que tout le monde peut se dire, oh, j'ai une pulsion par-ci, par-là. Non, non, les gens qui restent avec un engagement vont plus loin et sont plus heureux. C'est fou aux yeux de la société, mais quand on suit la sagesse de Dieu, elle se retrouve beaucoup plus, elle se retrouve être bien meilleure que toute l'intelligence des hommes. Alors nous, ce qu'on cherche aujourd'hui, c'est la sagesse qui vient de Dieu et l'intelligence que Dieu veut nous donner aujourd'hui pour avancer encore mieux dans notre vie. La sagesse des hommes est parfois drôle. Et alors que je regardais sur les proverbes bibliques sont puissants. Et il y a certains proverbes internationaux, en tout cas, si vous allez dans plusieurs cultures, chaque culture a des proverbes, a des dictons. Et il y en a qui sont un petit peu drôles. Alors, juste parce qu'on a enlevé un peu les masques, je peux voir vos sourires, je veux vous faire rire aujourd'hui. Vous avez le droit de sourire à l'église, vous le saviez? OK? Il y en a quelques-uns qui sont pas mal, OK? Quiconque taquine un nid de guêpe doit savoir courir. C'est pas mal, ça. OK, traverse la rivière avant de te moquer du crocodile. J'ai l'impression qu'il y a du vécu dans cette histoire. Il y a quelqu'un qui a dit, attention maintenant, je l'ai vécu, apprends. Celle-là, elle est pas mal, mais attention. Si tu regardes une image très laide, vérifie que ce ne soit pas ton reflet. J'ai visé personne, mais c'est sage quand même. Des fois, il y a des proverbes chinois, d'autres africains. Celui-là est vraiment bon. Hein? Un proverbe africain, mais il est punch, mais il pique un peu. L'homme blanc a toujours une montre, mais n'a jamais le temps. Ça pique, c'est drôle, mais en même temps, on dit, eh, c'est vrai. Tu cours après le temps alors que tu as une montre. Par... Il y a un côté où la sagesse est en fonction des cultures. Il y a des dictons, et puis là, on rigole. Mais réellement, il y a dans le livre des proverbes, on regarde, il y a une sagesse tellement incroyable. Et si nous suivons ce que Dieu nous demande dans sa parole, nous vivrons une vie et dans tous les domaines de notre vie. Parce que le livre des Proverbes, ce n'est pas juste le livre qui nous montre comment être spirituel, comment être entre guillemets des gens tellement dévoués. Non, non, c'est comment être spirituel dans tous les domaines de ma vie. Le livre des Proverbes va parler de la famille, de ta gestion du temps, de ton argent, de ta sexualité, de la manière dont tu gères tes affaires, ton entreprise. Le livre des Proverbes est un livre tellement pratique pour nous aujourd'hui. Alors si on écoute ce que Dieu a prévu pour nous, on peut non seulement le mettre en pratique ici à l'église, mais demain à la job. Et combien savent que quand on obéit à Dieu, partout dans notre vie fleurit. Ça ne veut pas dire qu'on devient parfait, mais qu'on progresse ensemble. Est-ce qu'on peut applaudir la parole de Dieu qui nous donne des outils pour avancer ? Une sagesse qui vient de Dieu est toujours basée sur la foi. Aujourd'hui, il y a Proverbe 9, 10, c'est important de le commencer avec ça. C'est que le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. On ne va pas juste chercher une intelligence un petit peu différente. Non, non, la sagesse de tout ce que tu as besoin aujourd'hui, ça commence par la crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel, ce n'est pas la peur de Dieu. C'est la peur de déplaire à Dieu. Alors si aujourd'hui, tu te dis, oh moi j'ai vraiment... Quand je me place devant Dieu, je me sens tellement petit et tellement, lui est tellement grand, je veux l'honorer, je veux lui obéir. Il est tellement saint et moi je suis tellement imparfait qu'au plus je me rapproche de lui, au plus il me guide dans la voie que je dois suivre. Si c'est ton désir, c'est ça la crainte de l'Éternel. Et continue de grandir dans cette crainte. Oui, notre Dieu est celui qu'on peut appeler ami, parce que lui nous a appelés amis. Et il est proche de nous. Mais que jamais cette proximité nous fasse basculer dans une familiarité. Où on prend Dieu pour notre bodyguard. Tu me suis, et puis je... Non, 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 qu'on puisse grandir avec une proximité, mais avec une crainte de l'Éternel. Je veux tellement le voir grand que moi, je me vois petit. Mais tellement il est proche de moi, je me vois grand en lui, parce que ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et tout mon passé est passé, maintenant, mon identité se trouve dans Jésus. Et c'est ça que nous devons comprendre aujourd'hui. C'est que la crainte de l'Éternel, c'est ça le commencement de la sagesse. Et alors que je lisais le livre de la sagesse pour commencer aujourd'hui cette série, au plus on lit le livre des Proverbes, puis je vous mets au défi de commencer aujourd'hui à lire le livre des Proverbes. Il y en a 31, il y a 31 chapitres. Ce qui est bien avec le livre des Proverbes, c'est que si tu viens découvrir la foi chrétienne et tu ne sais pas quoi lire, chaque jour, tu peux lire un proverbe. Et aujourd'hui, on est le 15 mai. Ça veut dire que tu peux ouvrir et tu lis le chapitre 15 des Proverbes. Si tu ne lis pas pendant 15 jours, eh ben tu reprends au proverbe 30. Et le 30e, bon, vous me suivez? C'est un peu le flou, hein? Okay. Je l'avais mieux dans ma tête, mais c'est moins bien sorti. Il y a un côté où chaque jour, tu peux lire le chapitre du livre des proverbes. Il y a 31 proverbes. Donc, chaque jour, tu lis le proverbe. Ça va mieux? Vous avez compris? Désolé pour la confusion. Il y en a, ils ont dit, tu viens complètement de me flouter tout le plan de lecture. Bref, il y a quelque chose de fort dans le livre des Proverbes. Et si ensemble, en tant qu'Église, on prie, Seigneur, révèle-toi à travers nous, à travers ta parole, révèle-toi à nous à travers ta parole, on va apprendre des choses et des principes qui vont nous aider à vivre mieux parce que c'est la parole de Dieu qui veut nous faire avancer de victoire en victoire et de gloire en gloire. Amen. Alors, quand je lisais le livre des Proverbes, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de passages qui parlaient du travail. De manière positive, de fais bien ton travail, œuvre bien, œuvre. Mais beaucoup de passages aussi nous mettaient en garde contre la paresse. Et la paresse, c'est l'ennemi du travail bien fait. Vous êtes d'accord avec moi? Et si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous n'avez pas été le victime de la paresse. Vous avez peut-être snoozé plusieurs fois, mais vous êtes là. Ou peut-être que quelqu'un ne vous a pas laissé être paresseux et vous a obligé à venir à l'église. Peu importe, vous êtes là et on va ensemble regarder à comment combattre la paresse. Parce que si la parole de Dieu en parle, je crois réellement que ça va nous donner des clés, ça va nous donner des clés pour notre vie aujourd'hui. Alors, on va regarder comment combattre la paresse. La définition de la paresse dit, c'est le comportement d'une personne qui évite l'effort. Une personne qui serait capable de faire quelque chose, mais qui veut éviter, juste parce qu'elle n'a pas envie. Et je ne veux pas qu'on soit paresseux parce que dans le caractère chrétien, dans les fruits de l'esprit, la paresse ne fait pas partie. n'est pas une notion qu'on dit « Oh, Jésus, oh, sur cette terre, il était paresseux. » Au contraire, il faisait tout ce qu'il devait faire. La mission avait été donnée et Jésus était en train de l'accomplir. Et il l'a accompli de manière parfaite. Nous devons ne jamais laisser la paresse prendre notre, laisser devenir cette attitude, mais au contraire, nous devons combattre la paresse pour faire les choses qui sont à la gloire de Dieu. Parce que la paresse nous vole nos accomplissements présents. La paresse nous vole notre avenir. Et aussi, en tant que chrétien, parfois, la paresse nous vole notre témoignage. Parce qu'on ne doit pas être connu comme des gens qui sont les plus paresseux à la job. Au contraire, on doit être connu comme des personnes qui font la job comme il faut, parce que tout ce qu'on fait, on le fait pour qui ? Pour Dieu, ultimement. Notre patron est là, oui, mais on le fait pour Dieu et parce que tout doit rendre la gloire à Dieu. Et il y a un texte, un proverbe qui est vraiment fort que j'ai lu cette semaine qui disait, Proverbe 6, 6, 11. Il parle et il nous explique comment combattre la paresse. Il dit, c'est Salomon qui parle, « Va vers la fourmi paresseuse, observe son comportement et deviens sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni supérieur. En été, elle prépare sa nourriture. Pendant la moisson, elle récolte de quoi manger. » Paresseux, jusqu'à quand resteras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Veux-tu somnoler un peu, te reposer encore, juste croiser les mains pour dormir? Voilà que la pauvreté te surprend comme un rôdeur et la misère comme un homme armé. Je vous l'ai dit, c'est quand même punch, c'est assez in your face les proverbes. Ils passent pas par quatre chemins, mais en même temps, je crois que quand on doit lire la Bible, on ne doit pas juste chercher à être motivé. Ce n'est pas un recueil de belles pensées motivationnelles. Non, la parole nous motive, oui, mais la parole aussi nous confronte. Et si en ce moment, tu n'es pas confronté par tes lectures, c'est peut-être que tu lis mal ta parole. Si tu lis juste les passages qui te font du bien, mais que tu enlèves les autres passages qui viennent te confronter, je crois que Dieu te dit, l'entièreté de cette parole est pour toi. Et les proverbes nous montrent que parfois, ça nous fait du bien d'être redirigé dans la bonne voie. Et on a tous à être confrontés. J'espère que vous êtes assez humbles pour dire, j'ai encore à apprendre à comment fonctionner mieux, n'est-ce pas? Alors, on va regarder ensemble à comment combattre la paresse. Mon premier point, la première vérité, c'est comprends l'importance du travail. Vous savez, l'humanité a été créée non pas pour être passive et attendre, mais pour être active. C'est-à-dire que Adam et Ève, dans le jardin, ont eu comme mission de travailler dans le jardin, de prendre soin, de protéger le jardin, de développer quelque chose. Ils n'ont pas été placés là, l'humanité n'a pas été placée là pour juste dire « attends l'éternité ». Non. Et le jardin était le premier paradis. Donc, dans la pensée de Dieu, parce qu'il y a beaucoup de gens parfois qui voient comme le travail, c'est une conséquence de la chute. Quand Adam et Ève ont décidé de se rebeller envers Dieu, là, Dieu a dit, maintenant vous allez travailler. Non, il y a eu une conséquence à la chute que le travail est plus difficile. Mais le travail de construire, de développer, ça se l'était avant. Donc, le plan de Dieu pour l'humanité, c'est une humanité qui est active. J'entends pas beaucoup de amen, ok? Mais il y a un côté où nous sommes appelés à œuvrer, à construire, à bâtir, à développer. Parce que Dieu nous a amenés, je sais pas si ça vous est déjà arrivé, hein, quand tu prends 3 semaines de vacances ou 2 semaines, là, les derniers jours, t'es comme tanné d'être en vacances, puis tu te dis, j'ai hâte de recommencer à être un peu productif. Ça m'arrive juste à moi? Rassurez-moi, là. Il y en a qui disent, non, je pourrais prendre 2 ans sabbatique, ça serait génial. Oui, il y a des saisons de vie, là. Mais des fois, j'ai l'impression que quand on ne fait rien pendant une longue période de temps, on commence à devenir, OK, donne-moi quelque chose à faire. Est-ce que je peux être productif? Mon voisin, je vais déneiger ton truc. Ou maintenant, je vais passer la tondeuse. Il faut que je fasse quelque chose pour me sentir utile. Ça, je crois que c'est Dieu qui nous l'a donné à l'être humain pour que nous puissions continuer à bâtir, développer et faire que l'humanité fonctionne et se développe. Parce que Dieu n'a pas mis juste un système terrestre en disant, attendez la fin et puis après, ça sera mieux. Non. Il dit, aujourd'hui, si tu fais ce que tu dois faire, tu pourras trouver une satisfaction dans l'accomplissement que tu fais. Il faut qu'on change notre chiffre de « le travail n'est pas mal, le travail est une bénédiction ». Parce que je vous le dis, si nous perdons notre travail demain, lundi, on viendra prier rapidement en disant « Seigneur, redonne-nous s'il te plaît parce que j'ai des factures à payer ». Notre travail peut nous permet de subvenir à nos besoins. Et oui, parfois, il est difficile, tu n'as peut-être pas la job de rêve, mais ce que tu as, tu dois être reconnaissant parce que c'est Dieu qui te l'a donné. Et aujourd'hui, je veux vraiment qu'on puisse comprendre qu'il faut qu'on comprenne que le travail est important, quel que soit le travail. Le travail est bon et vient de Dieu. On passe 40% de notre vie à travailler. Donc, mieux vaut avoir la bonne vision du travail, qu'on puisse avoir la bonne manière de l'interpréter, la bonne théologie du mariage. J'ai fait un mariage hier. Désolé, là. Désolé. Non. Mais oui, le travail. Quoi que vous fassiez, la parole de Dieu dit, quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Quoi que tu manges, quoi que tu bois, quoi que tu fasses comme activité, fais tout pour la gloire de Dieu. Ça veut dire qu'il n'y a pas de métier plus spirituel que d'autres. Souvent, les gens disent, « Ah, tu sais, moi, toute la semaine, je travaille, mais quand je viens à l'église, je viens servir Dieu, c'est à ce moment-là que c'est spirituel. » Non ! En fait, oui, mais il n'y a pas de côté plus spirituel parce que tu es à l'église ici. Et puis, la job des pasteurs n'est pas plus spirituelle qu'une job à l'entreprise. Pas du tout. En fait, oui, il y a des appels vocationnels, des appels ministériels que certains ont. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont plus spirituels parce qu'il y a parfois des gens qui peuvent se tenir sur ce stage en étant complètement remplis d'eux-mêmes et ne donnant pas la gloire à Dieu. Mais quelqu'un peut mettre un boulon à la chaîne pendant plus de 20 ans pour construire des autos, mais qui lui le fait avec une reconnaissance, avec une gloire, en brillant autour de lui, qui lui est peut-être plus à la gloire de Dieu que quelqu'un qui est dans le clergé. On s'entend qu'il y a quelque chose où il ne faut pas faire une représentation plus spirituelle de certains ministères. Non, en fait, tout ce que tu fais, si tu le fais pour la gloire de Dieu lui revient. Et c'est ça qui est tellement rassurant. C'est que ce n'est pas ce que je fais qui est important, c'est pour qui je le fais. Est-ce qu'en ce moment, tu te plains plus de ta job que tu n'es reconnaissant à Dieu envers ta job? Combien de millions de personnes sur cette terre rêveraient d'avoir ta job? Rêveraient d'avoir les conditions dans lesquelles tu es? Mais tu peux dire, ouais, mais c'est difficile ma job. Oui, mais rappelle-toi que il y a quelqu'un en ce moment qui rêverait de commencer là où toi tu rêverais de quitter. Et tout est une question de perspective. Mais si on change cela, si on change parce qu'on n'est pas tous appelés à monter de statut social et puis d'arriver juste aux zones d'influence. Non, Jésus est venu sur cette terre, il était charpentier. Il n'a pas commencé à dire, moi je viens dans la politique à un haut niveau d'influence. Non, il a dit, je vais être là, placé dans peut-être un établi avec du monde. Puis ce que je vais le faire tellement de la bonne manière que les gens vont voir que je suis à la gloire de Dieu dans les simples choses que je fais. Est-ce qu'on peut applaudir notre Dieu de se servir de nous à chaque niveau? Il n'y a pas de métier plus spirituel que d'autres. Et c'est intéressant parce que Salomon, qui, la parole de Dieu nous dit qu'il est l'homme qui a eu le plus de gloire sur cette terre, plus de sagesse, intelligence. C'est lui qui a écrit pas mal les livres de la sagesse. C'est lui que Dieu lui a béni d'une gloire, d'une richesse incroyable. Aucun homme sur cette terre n'a eu ce que Salomon a eu. Mais Salomon a appris une leçon. Il dit, paresseux, viens voir observer les fourmis. On s'entend que les fourmis, c'est vu comme l'un des insectes les plus insignifiants. Hein. Je veux vexer personne là, mais il y a comme un côté où les fourmis, bon, il y en a tellement sur cette terre, c'est pas quelque chose de... Ils ne sont pas en voie d'extinction en tout cas. Mais lui, il dit, attends, viens jusqu'ici. C'est l'homme qui a la plus grande gloire de l'humanité. Hein. Il vient et puis il dit, attends, regarde, observe ce qui se passe là en dessous. Moi, je suis un fan de National Geographic, les documentaires animaliers. Le samedi soir avec Sophie, je dis, oh, regarde, il y a un super reportage sur les baleines. Et puis elle me dit, change, hein. Elle n'est vraiment pas dans le même vibe. Mais moi, j'aime tellement regarder comment la gloire de Dieu se manifeste dans la création. Quand on prend le temps de s'arrêter et qu'il y a une mini caméra qui vient dans une fourmilière et qui nous montre comment la fourmi, c'est incroyable parce que tout ce qu'elle fait rend la gloire à Dieu. C'est comme Romains 1:20 qui dit, en effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient depuis la création du monde. Elles se comprennent par ce qu'il a fait. La création de Dieu, dans même ce qui nous paraît le plus insignifiant, rend la gloire à Dieu dans une œuvre bien faite, de manière tellement rigoureuse, tellement bien faite que la gloire de Dieu est révélée à ce niveau-là. C'est Salomon qui prend exemple sur des fourmis et qui nous dit à nous, regarde, observe. Regarde ce qu'elles font, c'est quelque chose d'incroyable. Et il faut que nous puissions, nous arrêter devant la merveilleuse création de Dieu en disant, Seigneur, merci, parce que tout fonctionne dans un ordre établi. Dieu a lancé une machine incroyable qui s'appelle la planète Terre. On voit même que l'univers encore est en expansion en ce moment. L'œuvre de Dieu se renouvelle de plus en plus, c'est incroyable. Et ce qu'il a mis dans sa création nous montre que son œuvre avance, qu'il est toujours en arrière pour mettre en lumière sa gloire dans les choses infiniment petites comme pour les fourmis, mais infiniment grandes, parce que les univers incroyables, les cieux des cieux ne peuvent contenir la gloire de Dieu, mais ils sont là pour nous montrer sa gloire. Est-ce qu'on peut applaudir notre Dieu qui nous montre à nous combien il est grand? Alors j'espère qu'aujourd'hui, il faut que tu changes ta vision de ne vois plus ton activité professionnelle ou les tâches que tu as à accomplir comme désuètes de sens. Mais au contraire, demande à Dieu une perspective de voir dans tout ce que tu fais, dans le travail de tes mains, dans ce que tu bâtis, dans ce que tu accomplis, vois la gloire de Dieu qui se manifeste à travers toi. Et maintenant, il faut observer et changer notre manière de penser au travail, comme quoi c'est important de travailler, c'est bon, ça a été donné de Dieu. Mais maintenant, il faut passer à l'action, c'est mon deuxième point. Commence à te discipliner. Comment combattre la paresse? Il faut que tu commences à te discipliner. Le premier verbe du texte qu'on a lu, c'est « va ». Va, va, observe les fourmis. Va vers eux. Il faut que tu fasses une action. Parfois, les gens disent « Ah, oh, je suis tellement paresseux, j'ai tellement de choses à faire, que je suis tellement découragé, je ne fais rien d'autre. » Non, la première chose, c'est qu'il faut que tu commences par un petit pas. Les gens veulent des fois tellement tout changer dans leur façon de faire qu'ils ne commencent pas parce qu'ils voient l'immensité de la tâche à faire. Tu commences le lundi matin, puis t'es déjà découragé, t'as hâte et tu pries que ce soit vendredi 5 heures. Il y en a ici? On a tous eu des semaines comme ça. Mais si c'est toutes les semaines comme ça, c'est qu'il y a un problème. Alors que Dieu dit, il faut que tu commences à te discipliner. Si en ce moment, tu traînes une paresse dans ce que tu dois faire, peut-être que les gens autour de toi ne te voient pas motivé au travail et tout ça. Commence à te discipliner, à dire, Seigneur, montre-moi une nouvelle manière d'être productif, d'entrer dans ce que tu me demandes de faire. Commence par un petit pas. Arrête de procrastiner. La procrastination, on le voit, hein, paresseux. Jusqu'à quand resteras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Tu veux somnoler un peu, te reposer encore, juste croiser les mains pour dormir? Combien a snoozé au plus de 3 fois ce matin? Okay? Ton réveil, tu le mets à 6h, à 6h05, à 6h10, juste pour ne pas l'oublier. Mais malgré ça, tu snoozes encore 3 fois, n'est-ce pas? On peut revenir repentant ce matin, Dieu nous pardonne. Mais il y a comme quelque chose où la procrastination nous vole notre présent, nous vole même notre avenir. Parce que le texte nous le dit, hein, il y a 3 verbes d'action. C'est « va », « observe » et « deviens sage ». Il y a comme une structure où il faut que maintenant, là, tu commences par quelque chose. Paresseux, vois, va vers les fourmis, observe leur œuvre et maintenant deviens sage. Il faut qu'il y ait une structure établie dans notre journée, dans notre semaine, dans ce que tu veux accomplir, ce que Dieu t'a demandé, ce que Dieu t'a mis au fond de toi. Est-ce qu'il y a un rêve? Il y a peut-être un appel que tu mets de côté parce que tu es paresseux en ce moment, parce que oui, ça va te prendre d'être discipliné et puis de faire les choses, mais Dieu veut te donner la force pour accomplir ce qu'il te demande d'accomplir. Est-ce que tu vas faire aujourd'hui, parce que ce que tu vas faire aujourd'hui va porter du fruit pour demain. En été, la fourmi prépare sa nourriture. Pendant la moisson, elle récolte de quoi manger. Si aujourd'hui, tu ne te lèves pas pour faire ce que tu dois faire, demain, tu pleureras. Et tu regretteras de ne pas l'avoir fait aujourd'hui. Travaille, parce que ton toi, dans un an, te remerciera aujourd'hui d'avoir commencé quelque chose. Peut-être c'est d'épargner. Mais tu es tellement paresseux dans tes finances que tu te dis, oh, je verrai ça plus tard. Mais en fait, il y a des choses aujourd'hui que tu pourrais mettre en place, de commencer à épargner un petit peu au lieu de juste vivre à crédit. Tu pourrais commencer à mettre de côté pour réaliser les projets. Il y en a beaucoup parfois, ils disent, ah, moi, je veux faire des voyages missionnaires partout. Ah ouais, c'est super. Tu commences à économiser? Non. Je mange au resto tous les jours, tous les midis, matin, midi, soir. Puis un jour, je veux partir en mission. Ouais, mais ça coûte. Ouais, mais Dieu pourvoira. Ouais, mais Dieu pourvoira la job aujourd'hui que tu as en ce moment pour pouvoir économiser pour partir demain. Mais parfois, on voit ça comme, ah non, mais oui. Il faut qu'on vienne à dire, Seigneur, ne laisse pas la paresse nous voler l'appel que tu as pour nous. Parce que je vous parle en expérience. Je suis quelqu'un qui accomplit des choses, mais je suis aussi quelqu'un qui est paresseux sur beaucoup de choses. Et cette semaine, la parole me rappelait le côté où, Ben, est-ce que tu fais ce que tu dois faire dans tous les domaines de ta vie? Pas juste quand tu es motivé pour les choses à faire. Parce que des fois, on se réveille très tôt pour faire ce qu'on aime faire. Mais des fois, on snooze pendant 3 heures parce qu'on n'aime pas faire. Dieu nous dit, il faut que tu sois consistant, il faut que tu sois persévérant, il faut que tu sois un témoin dans les bons et dans les moins bons jours, n'est-ce pas? Il faut que nous soyons des gens qui sommes prévoyants. Proverbe 24 dit, à cause du froid, le paresseux ne laboure pas. À la moisson, il voudra y récolter, mais il n'y a rien. Est-ce qu'en ce moment, tu travailles pour aujourd'hui pour créer ton demain? Est-ce qu'en ce moment, tu mets peut-être des heures de côté pour prendre un cours en ligne, pour pouvoir à un moment donné graduer, pour avoir la job que tu te dis, regarde, j'ai l'impression que j'ai les compétences pour ça, j'aurai l'envie, j'aurai le talent, mais il manque peut-être des diplômes ou peut-être un cours ou deux. Mais aujourd'hui, je vais me discipliner à faire en sorte d'arriver à mes objectifs parce que je crois que Dieu veut nous amener à faire ce qu'il nous appelle à faire. Et oui, on n'aura pas tous notre job de rêve. Et même dans la job de rêve que tu penses avoir, mais il y a du monde qui veut la quitter en ce moment, pour différentes raisons. Donc, ne crois pas que la job de rêve va être ce qui va me satisfaire parfait. Non, parce que si tu es paresseux dans ta job de rêve, à un moment donné, ça va devenir ta job de cauchemar. Donc, il faut que tu comprennes qu'aujourd'hui, il faut que tu travailles pour que tu puisses bâtir ce que Dieu t'amène à. Et chaque étape comme ça. Et je regardais des experts en productivité qui disaient, voici, si vous avez beaucoup de tâches à accomplir, dans une semaine par exemple, voici 5 étapes incroyables. Puis c'est vraiment pratique, mais je vous les donne parce que c'est intéressant. La première chose, c'est commence avec ce que tu aimes le moins faire dans ta journée. Pourquoi? Parce que des fois, tu commences en faisant tout ce que tu aimes, mais il y a comme un fardeau qui est là en disant, tu vas faire bientôt ce que tu n'aimes pas faire. Et au plus ça avance dans la journée, au plus c'est pressant, au plus tu dis, j'aurai pas le temps, j'ai pas l'envie, je fais pas, je le referai demain. Alors commence aujourd'hui, commence par la première chose à faire ce que tu n'aimes le moins faire dans ta journée. La deuxième chose, définis tes vraies priorités. Est-ce que 3 heures sur Instagram, c'est important dans ta journée, à part si tu travailles sur les réseaux sociaux, si ce n'est pas le cas, est-ce que c'est vraiment pertinent aujourd'hui où je pourrais mettre ces 3 heures-là à faire quelque chose, à brainstormer, à écrire, à passer du temps pour juste développer ce que Dieu m'a demandé à faire? Est-ce que tu établis tes bonnes priorités dans ta semaine? Profite de ton pic de productivité. Il y en a beaucoup, c'est le matin. Réveille-toi un petit peu plus tôt, pars un petit peu plus à la job, prends ton temps de dévotion et pars dans ta productivité le matin. Parce que des fois, à 1h30, après le gros lunch, tu es juste en train d'être somnolent, c'est tu pries pour le repos du Seigneur, et tu dis, je prendrais bien une petite sieste à ce moment-là. C'est peut-être pas là ton pic de productivité. Mais réalise dans ce que tu fais, dans ce que tu es appelé à faire, où est ton pic de productivité. Quatrième, change tes habitudes une à la fois. Des fois, on voit tellement tout à changer qu'on est comme découragé. Commence une à la fois. Change une habitude. Et au plus tu le fais, et c'est ça que ça nous arrive après, récompense-toi pour chaque objectif atteint. À chaque fois que tu vas faire quelque chose, un petit objectif que tu vas réussir, ça va te donner confiance en toi. Et ça va te donner motivation pour accomplir la prochaine tâche. Et au plus tu le fais, au plus tu te dis, regarde, j'ai été capable de le faire. J'ai été capable d'arrêter de fumer une cigarette alors que je fumais 2 paquets par jour. Mais je vais être capable demain de le faire. Et Dieu va te donner la capacité de le faire parce que lui veut que tu avances de gloire en gloire, de victoire en victoire. Alors quel objectif tu as à faire aujourd'hui? Commence par un petit pas. Et la foi que Dieu va t'amener ce qu'il a commencé en toi, il va l'accomplir. C'est lui qui est fidèle. Alors prends tes responsabilités, discipline-toi et récompense-toi pour chaque objectif atteint. Parce que si Dieu est fier de toi, tu peux être fier de toi aussi. Des fois, on est comme, non, allez, non, j'ai pas tout accompli. Non, mais célèbre les petites victoires. Si tu as fait quelque chose de bien aujourd'hui, dis, Seigneur, merci parce que tu m'as donné de le faire, puis je veux être heureux et je veux continuer à avoir une bonne productivité. Et la cinquième, dernière, garde une bonne hygiène de vie. Dormir, manger, bouger. Est-ce qu'en ce moment, tu dis, le lundi, je suis tellement paresseux, je n'ai vraiment pas envie de me lever. Tu sais, je dois me lever à 6 heures, puis je me couche à 3 heures. Ce n'est peut-être pas la bonne hygiène de vie. Il faut que tu regardes, est-ce que je peux vraiment bien agencer ma vie pour être le plus productif, pour arriver le lundi matin, pas avec une tête tellement démotivée que tout le monde ne veut même pas te dire bonjour. Et puis là, on n'aura même plus les masques, hein, donc tu ne pourras même plus te cacher en arrière. Tu sais. Il faut que tu arrives le lundi matin en étant le plus heureux, le plus motivé. Celui qui dit bonjour à tout le monde. Et moi, je ne suis pas du matin non plus. Mais il faut qu'on se force à être la lumière là où Dieu nous a placés, n'est-ce pas? Dites amen. Ils pensent déjà à demain matin. Ils disent, ça va être dur. Oui, mais tu vas moins snoozer. Donc déjà, tu seras meilleur. Tu sais. Il y a une des choses, avant de passer au troisième point, il y a une des choses incroyables aussi, c'est que la paresse souvent apparaît lorsque tu te compares aux autres. Est-ce qu'en ce moment, tu es tellement en train de regarder la vie des autres et leur accomplissement et leur discipline et leurs rêves qui deviennent réalité que toi, tu es en train de passer ta vie à passer à côté de ce que Dieu a pour toi parce que tu es en train de regarder le champ de ton voisin. Proverbe 12, 11 dit « Celui qui cultive son champ est rassasié de pain, mais celui qui poursuit des choses vaines est dépourvu de sens. » C'est quoi la suite ? Mais celui qui poursuit des choses vaines est dépourvu de sens, pardon. J'avais cru le « et puis ». Il est dépourvu de sens. Si tu poursuis la comparaison et toujours être comme « mais qu'est-ce que lui fait? Qu'est-ce que moi, j'ai pas fait ?» tout ça, ça, c'est dépourvu de sens. C'est de la comparaison qui t'amène. Dieu t'a amené à une destinée. Il t'a donné des compétences, un appel. Fais ce que tu dois faire. Regarde pas ce qu'il fait le voisin. Parce que celui qui cultive son champ, à la fin de la journée et à la fin, quand il va récolter, il va être heureux. Est-ce qu'en ce moment, tu es en train juste de regarder les accomplissements des autres et tu passes à côté de ta vie? En ce moment, c'est ça aussi qui peut excuser. Moi, si je regarde la paresse des fois dans ma vie, c'est que je regarde trop aux autres et pas assez à ce que Dieu veut pour moi et ce que je peux faire pour Dieu. Et au plus je me compare, au plus je me désole, au plus je me dis « Ah, oh, mais qu'est-ce que moi, je n'ai pas encore accompli ?» Dieu, il me dit « Non, non, cultive ton champ. Va à court dans la course que je t'ai donnée. Commence pas à regarder comment l'autre court. Toi, cours comme je t'ai appelé. Et quand tu traverseras la ligne, tu diras « Enfin, j'ai combattu, j'ai poursuivi la bonne course. J'ai fait ce que Dieu m'appelait à faire. Ne te compare pas aux autres. Cultive ton champ. » On doit être inspiré, oui, par les autres, mais pas découragé. Si en ce moment, ton Instagram te décourage, coupe-le. Coupe-le. Coupe-le pour un temps, fais un jeûne, puis je te dis, tu vas t'en sortir bien mieux. Je l'ai fait plusieurs fois. À plusieurs saisons, j'ai dit « Non, ça ne m'inspire pas. Ça me décourage. » Puis je ne pense pas que Dieu veut que je me décourage, il veut que je sois encouragé dans la parole. Et oui, il y a des saisons où tu peux regarder et puis tu es heureux de l'accomplissement des autres. Mais si en ce moment ça te décourage, change ta vision, change et ferme ton cellulaire. Combien disent amen? Mais fais ce que tu dois faire, et c'est mon troisième point. Comment combattre la paresse? Fais tout avec excellence. Une attitude d'excellence. L'excellence, c'est de donner son meilleur. Et ce n'est pas juste... Si j'aime ce que je fais, non. L'excellence, c'est une attitude, c'est un style de vie. Est-ce qu'en ce moment, dans tout ce que Dieu te donne, dans tout ce que Dieu t'a confié, dans toutes les missions là où il t'a placé, qu'elles soient « Waouh, j'aime tellement ce que je fais » ou « Non, en ce moment, c'est un peu difficile », est-ce que dans chaque saison, tu peux dire « J'ai une attitude qui glorifie Dieu parce que je fais tout avec excellence ». L'excellence, tu sais, on a tous été déjà dans un magasin ou un restaurant où la personne qui est censée te servir a vraiment pas envie d'être là. N'est-ce pas? J'espère que ce n'est pas ton cas aujourd'hui si tu es serveur et que tu n'as jamais... Non, on prie pour toi. Mais il y a comme quelque chose que tu es là, puis tu te dis, la personne n'est juste pas motivée. Tu sais, c'est quoi qu'il y a dans cette sauce? Je ne sais pas. OK, est-ce que tu pourrais demander juste parce que... Non, il ne sera pas non plus. Il est loin derrière, je dois aller voir l'autre table. Et puis tu es comme, donne-moi ton menu, je vais aller voir ton chef, je vais le faire à ta place parce que là, tu es comme pas, tellement pas motivé que tu me coupes la faim. Tu sais? Mais en même temps... On a déjà été dans une épicerie ou quelque part où tu cherches à Rona une allée, puis là tu rencontres quelqu'un qui est super motivé. Oh, vous cherchez le... Ah oui, bien sûr, venez voir, on va regarder dans l'allée. Attendez, venez voir. Le gars est tellement motivé que tu veux lui donner un tip à Rona. Mais il n'y a pas de tip à Rona, tu ne donnes pas quelqu'un un tip à Rona, ça serait bizarre quand même. Hein? Dans une enveloppe grise, tu es comme, ah tiens, une enveloppe brune. Non, mais tu es tellement heureux que quelqu'un soit motivé à te servir que tu voudrais même l'avoir comme voisin. Parce que c'est lui, quand tu oublies de tondre le gazon, qui va le faire à ta place. Il est tellement motivé, tellement une bonne attitude. Mais est-ce que ça pourrait être nous, l'Église de Christ, qui soyons tellement motivés à notre job partout, dans ta job de rêve ou dans ta job transitoire en ce moment? Est-ce qu'on pourrait tellement représenter l'amour de Jésus, la bonté qu'il a, parce que ses bontés se renouvellent? Et chaque lundi matin, les bontés de Dieu se renouvellent. Est-ce qu'en ce moment, tu les saisis? Est-ce qu'il y a une reconnaissance qui est là? Seigneur, merci pour une nouvelle semaine. Parce que j'aurais pu perdre le souffle hier. Mais encore aujourd'hui, je suis là. Et tu me donnes encore aujourd'hui de pouvoir respirer l'oxygène et puis d'aller travailler, d'avoir la santé pour pouvoir le faire. Merci Seigneur pour toutes tes bénédictions. Je ne veux pas juste me plaindre de ce que je n'ai pas. Je veux te bénir pour ce que j'ai. Est-ce qu'on peut applaudir notre Dieu qui pourvoit à tous nos besoins? Proverbe 13, 4. L'âme du paresseux a des désirs qu'il ne peut satisfaire. Mais l'âme des hommes diligents sera rassasiée. Il y a quand même quelque chose que fais ce que tu dois faire avec une belle attitude. Pas juste je fais la job. Non, je la fais avec une belle attitude. Je la fais avec un sourire. Pas juste quand mon boss me regarde. Est-ce que quand ton boss n'est pas là et que tu peux quitter un petit peu avant pour juste gagner des heures, mais en fait tu sais que c'est du vol parce que tu es comme payé à l'heure, puis tu comme quittes avant, puis tu dis oh, mais c'est bon, tu sais, c'est pas trop grave. Est-ce que tu fais ça? Salomon dit regarde les fourmis. Observe son comportement. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni supérieur. Elle fait ce qu'elle est appelée à faire alors qu'il n'y a même personne qui la check. Elle travaille avec excellence parce que c'est pour ça qu'elle a été créée et elle le fait pour rendre la gloire à Dieu. La création de Dieu rend la gloire à Dieu. Les arbres des champs frappent des mains. Il y a comme quelque chose où la création rend la gloire à Dieu dans toutes les choses, dans l'ordre que Dieu a donné. Est-ce que toi et moi, qui sommes rachetés par grâce, nous avons été héritiers, co-héritiers avec le royaume de Dieu. Il y a comme quelque chose d'incroyable. On a été pardonnés par nos péchés. On a accepté Jésus comme notre sauveur et Seigneur. Et on a comme vécu une nouvelle vie complètement. Est-ce qu'on pourrait vivre en tant que des gens qui ont été rachetés? Oui, ce monde, on y vit, mais on est citoyen du royaume de Dieu. On est de passage ici, alors chaque jour que je vais vivre sur cette terre, je vais la mettre à proclamer la grâce, l'amour de Dieu, le sourire de Dieu, ça va être moi sur cette terre. Est-ce qu'en ce moment, tu fais tout avec excellence? Je sais que mon boss ne me regarde pas, mais ultimement, je sais que Dieu me regarde. Il y a peut-être personne qui regarde ce que je fais, mais ce que je fais, ultimement, oui, je le fais parce que mon boss me demande de le faire, mais c'est parce que je veux donner la gloire à Dieu. Que tout ce qu'on fasse, on puisse le faire pour la gloire de Dieu. L'excellence, c'est ne pas me suffire de la médiocrité. Je peux juste passer à 60, ben regarde, je vais juste travailler pour avoir 60. Non, quand Dieu te donne les capacités de passer à 100, fais-le, va chercher le meilleur. Et je veux pas encourager le perfectionnisme en ce moment. C'est pas une question de oh, je vais tellement tout faire que je veux le faire parfaitement. On n'y arrivera pas. Je suis perfectionniste dans mon caractère. Puis je vous le dis, ça me détruit plus que ça m'aide. Oui, on essaye de faire les choses bien, mais des fois tu veux tellement les faire parfaitement que tu passes à côté de la mission. Et dans une société, oui, des fois, il y a la paresse, mais aussi d'un autre extrême, le hustle culture. Il y a un côté où tu vas pas dormir la nuit, tu vas travailler, tu vas sur-travailler, tu vas pas prendre de vacances. Pendant 5 ans, tu vas arrêter ta vie, tu auras plus de vie sociale, puis tu vas tellement travailler qu'à un moment donné, c'est pas de Dieu non plus. Le même Dieu qui a institué l'humanité pour travailler et être actif est le même qui lui a commandé d'être en sabbat le 7e jour. Il a dit, si tu travailles, tu vas travailler bien, mais à un moment donné, tu vas te reposer. Parce que si tu te reposes pas, tu ne seras pas à ma gloire dans la semaine d'après. Tu seras brûlé. Tu brûleras les gens autour de toi. Est-ce que ce que Dieu t'a confié, c'est ta priorité? Ou c'est parce que tu trouves ton identité dans ton travail, que tu travailles tellement que tu veux accomplir, tu veux montrer à tout le monde, tu veux prouver à tous que tu as réussi. Et là, tu veux tellement mettre ton identité dans ton travail qu'en fait, tout ce que Dieu t'a confié autour est en train d'être négligé. Est-ce qu'en ce moment, tu rentres à l'heure juste pour voir ta famille ou tu te dis non, je veux faire des heures sup, je pourrais gagner plus, je pourrais avoir ma promotion, Alors que Dieu te dit, non, il y a un temps pour toute chose. Il y a un temps pour travailler, il y a un temps pour profiter. Il y a un temps pour agir, il y a un temps juste pour rien faire. Le sabbat, dans l'Ancien Testament, c'était une loi que tu ne rigolais pas avec. Ce n'était pas, si je veux, je rattraperai le lundi. Non, c'est le sabbat, le jour, là, il faut que tu t'arrêtes. Parce que si tu ne t'arrêtes pas, à un moment donné, c'est ta maladie qui va t'arrêter. Le burn-out, à un moment donné, ce n'est pas des gens qui sont faibles, c'est des gens qui ont essayé d'être forts trop longtemps. Alors moi, je veux le faire. On me demande de le faire, il y a une pression tellement là. Alors qu'en fait, Dieu dit, maintenant, prends un temps d'arrêt. Et il y a des gens qui ont dû s'arrêter à l'église ici, qui nous parlent en disant, en ce moment, je dois juste m'arrêter parce que je ne suis plus capable de rien faire. Dieu te donne un sabbat, juste prends ça, relax en ce moment. Et reprends des forces. Parce que Dieu veut te restaurer pour que tu puisses faire ce qu'il t'appelle à faire. Il y a un temps pour tout. Est-ce qu'en ce moment, tu essayes tellement de travailler, de trouver ton identité, qu'en ce moment, tu es en train de te perdre. Le perfectionnisme peut nous faire passer à côté de belles choses. Et alors que les musiciens viennent, alors que les musiciens remontent, j'arrive bientôt à la fin de mon message, mais je riais avec Lenny la semaine dernière parce qu'on a fait la fête des mères. Et alors que Lenny regarde un livre de cuisine, il voit des beaux gâteaux, des pâtisseries et tout ça. Puis il me dit, ah papa, on pourrait faire un super beau gâteau pour maman. C'était un petit peu tard déjà, c'était dimanche. Alors je dis, oui, on pourrait le faire et tout ça. Mais il me montre des trucs avec du glaçage et tout ça. Puis moi, je suis pas vraiment bon en cuisine. Okay? Je ne sais même pas où acheter les ingrédients pour faire le gâteau. Donc c'est pour vous dire, il faut du chemin déjà. Alors quand il me le montre, je dis, ouais, ok, mais je suis tellement des fois perfectionniste que je ne veux même pas me lancer dans un projet que je sais que ça ne va pas rendre comme je voulais que ça rende. Je ne sais pas si vous avez déjà vu, mais il y a des gens qui montrent leurs photos de gâteaux de rêve, comme je voudrais faire par exemple la Reine des Neiges. Et puis en fait, ça arrive à être en fait la Reine du déneigement. Tu sais? Ben moi, si je fais de la pâtisserie, ça va être pas mal ça, mais je suis perfectionniste alors. Tu sais? Ou alors je veux faire Olaf, tu peux montrer le gâteau Olaf, magnifique, tu vois, tu veux faire ça. Et Pinterest te montre ça, et puis en fait, ça arrive à Opaf. C'est comme pas la même chose. Ça n'a pas le même rendu, tu sais, à ton fils de 3 ans, à sa fête avec tous ses amis, c'est comme, ah ouais, ok. Ou sinon, tu veux un super chat mignon, tu sais, oh waouh, ça serait super ça, tu sais, pour sa fête. Et puis en fait, tu arrives avec le chat que tu ne veux même pas croiser dans le pire des quartiers, comme non, ça c'est... Mais tu es tellement perfectionniste que tu veux exactement faire, mais en fait, tellement que je le dis, parce que Il voulait tellement faire quelque chose de beau que je me dis, ça ne va jamais rendre ça. Si tu le fais avec moi, ça ne marche pas. Avec ta mère, ça va être parfait. Mais avec moi, ça ne va juste pas rendre ça. Donc, j'ai comme procrastiné. J'ai espéré et prié qu'il oublie cette idée de faire un gâteau. Mais il n'a pas oublié. Alors, hey, regarde, papa, un nouveau gâteau qu'on pourrait faire. Puis là, j'ai dit, mais pourquoi je ne veux pas le faire? Parce qu'en fait, je pense que je vais être frustré à la fin de ne pas voir ce que je veux faire. Alors, j'ai pris, ce matin même, j'ai pris la décision de cet après-midi, je vais aller acheter avec lui les choses, on va faire un gâteau. La semaine prochaine, vous allez voir la photo. Ouais, applaudissez pas trop vite parce que... Mais il y a un côté où je suis paresseux parce que je suis perfectionniste. Je veux tellement trop bien le faire que comme je sais que ça ne va pas être comme ça, ben, je ne le fais pas. Alors qu'en fait, je vais passer un bon temps avec mon fils. On va s'amuser, on va rire, on va peut-être même avoir une photo qui va être rigolée dans une église un jour, tu sais. Mais il y a quelque chose que, est-ce que je passe à côté de quelque chose parce que je veux tellement être parfait? Parce qu'il y a une culture en ce moment de, il faut que tu arrives à exceller dans ton travail, pas exceller, à être parfait dans ton travail. Alors qu'on n'est pas appelé à ça. On est appelé à travailler avec excellence. La différence entre l'excellence et le perfectionnisme, c'est l'excellence, c'est faire attention aux détails. Le perfectionnisme, c'est se perdre dans les détails. Est-ce qu'en ce moment, tu es tellement méticuleux que tu ne dors même pas la nuit juste pour essayer d'avoir le meilleur rapport, le meilleur un? Alors qu'en fait, Dieu te dit, hey, la nuit, c'est fait pour dormir. Même aujourd'hui, il y a des gens dans leur speech motivationnel sur Instagram qui disent, on n'a pas besoin de 8 heures de sommeil, juste dors 3 heures, 4 heures, puis ça va aller, puis tu vas rattraper le temps. Non. La nuit a été faite pour qu'on puisse reprendre l'énergie, puis vraiment être reposé pour ensuite faire. Et je vous le dis, si on fait comme Dieu nous a créés, tout ira bien. Peut-être qu'on ne sera pas parfait, mais je ne pense pas que dans ce monde, on soit appelé à le faire. Mais on va être bien, on va être de bonne humeur le lundi matin, quand on aura bien dormi la veille. Quand on va arriver à la job et puis qu'on se dira, Seigneur, j'ai pris le temps de prier, puis je veux vraiment être une lumière là où tu m'appelles à être. Je veux faire ce que je dois faire, je ne veux pas être paresseux, je ne veux pas être découragé. Je veux être là où tu m'as placé pour être quelqu'un qui vient et qui proclame qui tu es au travers de ce que je fais. Et je termine avec une illustration, alors que les musiciens commencent à jouer. C'est fort parce que au Vendredi Saint, si vous étiez là à Longueuil, il y a eu un grand rassemblement, c'était incroyable. On a le vendredi avant Pâques, on commémorait la crucifixion de Jésus. Tout était à propos de Christ, la croix au centre de tout. Et alors qu'on pratiquait, j'étais dans l'équipe worship pour cette soirée-là, cette célébration-là. Et alors que j'étais là avec NV Worship, pendant la pratique, il y avait l'éclairagiste qui est Steve, un ami qu'on connaît depuis longtemps, il nous a suivis dans les tournées Impact et tout ça en Europe. Quelqu'un qui a un don incroyable. Il prend des lumières puis il arrive à faire des choses incroyables, à la gloire de Dieu. Et lui, c'est un gars qui excelle dans son domaine. Les plus grands séculiers l'appellent parce que lui, ils le veulent pour des tournées dans des grandes salles. Il viendrait à Montréal, dans le Centre Bell, puis il en ferait quelque chose d'incroyable. Et puis, c'était fort parce que je me disais, son don à lui, c'est de faire briller Jésus au travers des lumières, des spotlights, des choses incroyables. Et on aime tous, quand on va dans un concert, voir que tout fonctionne. J'irai voir Coldplay au Centre Bell, puis ça sera incroyable. Le meilleur son, la meilleure lumière, la meilleure ambiance. Mais tu sors, puis tu as juste chanté « Baby, baby, baby ». Donc c'est comme, wow, on a passé une belle soirée, mais ça ne m'a pas rempli. Alors que j'étais là le vendredi soir, je me disais, wow, il est derrière ces lumières. Et à un moment donné, il a fait apparaître de nulle part la croix qu'on voit ici. Si vous étiez là, c'était incroyable. Parce que dans le moment de louange, à un moment donné, on chante « Alléluia, que la gloire revienne à Jésus ». Puis à un moment donné, il y a une croix qui apparaît de nulle part. Parce qu'avec son don et son talent, il a fait un système pour que la croix arrive, apparaisse de nulle part. Incroyable. Ce moment était puissant. Puis je me suis dit, c'est pour ça que j'ai pris avec mon téléphone, la résolution n'est pas géniale, mais ce moment était fort parce que je me suis dit, son talent à lui, mis au service de Christ dans son église, fait briller Jésus. Lui, il pourrait trouver son identité dans ce qu'il fait. Tout le monde l'appelle. Il est le meilleur dans son domaine. Il fait des choses incroyables. Waouh! Mais lui, il dit, moi, je veux juste servir Dieu avec mes dons et mes talents. Alors quand il était là, ici, il a mis une croix au centre. Puis j'étais tellement renversé, je me disais, c'est tellement beau de mettre, non pas notre identité dans notre travail, mais que notre travail révèle notre identité en Christ. Et la lumière qu'il faisait était en train de dire, voici, mon don est fait pour montrer la croix. Et je disais, ma vie doit exactement être la même chose. Que quand on parle de Ben Witten, on dit, il y a une croix devant lui. C'est plus lui qui vit, c'est Christ qui vit en lui. Qu'à ta job, Les gens disent, hey, toi, t'es celui qui est le contre-maître de tout ça, mais tellement il a une bonne attitude. Quand il y a des pots de vin qui viennent, il dit, non, moi, je veux rester droit. Quand il y a des jokes qui sont pas bonnes, puis genre, moi, je me tiens pas là-dedans parce que les gars, moi, je veux honorer ma femme, puis je veux pas déshonorer les autres femmes, et puis je veux... Quand il y a des choses qui viennent autour de toi, mais que tu te gardes en disant, moi, c'est la croix qui me définit. C'est pas ce que je fais ou parce que... Non, il y a comme quelque chose où je veux être droit en toute chose. Et bien, c'est là où notre identité se trouve être révélée par Christ. Aujourd'hui, nous avons une culture où on trouve notre identité dans ce qu'on a fait, qu'on puisse trouver, nous, notre identité dans ce que Christ a fait pour nous. Parce que si on doit donner notre meilleur, c'est en réponse à ce que Dieu a fait pour nous. Parce que Dieu nous a donné le meilleur. Il a voulu tellement être réconcilié avec l'humanité qu'il avait créée qu'il a envoyé Jésus-Christ sur cette terre. Et Jésus a donné son meilleur en étant ici, jusqu'à mourir sur la croix en donnant tout. La Bible nous dit que tout l'or et l'argent du monde n'auraient pas pu acheter une goutte du sang de Jésus. Mais lui, il a donné tout son sang pour nous. Parce qu'il a lavé l'humanité du péché qui l'accablait. Il a dit maintenant, le voile est déchiré. Il n'y a plus aucune condamnation qui vous sépare de Dieu. Vous êtes en Christ justifiés. Nous pouvons venir comme on le fait aujourd'hui, chanter à Dieu et que Dieu soit ici, il siège au milieu des louanges de son peuple. Ça, c'est grâce à ce que Jésus a fait. Il a donné le meilleur qu'il avait. Il a donné sa propre vie pour que nous puissions la recevoir. C'est pour ça que dans ta vie, ne sois pas paresseux ou essaye d'être découragé à ce que tu fais. Non, fais juste une réponse à ce que Dieu a fait pour toi. Seigneur, je vais donner mon meilleur parce qu'en fait, là où je suis chaque jour à la job, je suis en mission. Tu m'as placé là et je vais donner mon meilleur. Et les gens vont me demander, mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu as une attitude comme ça? Pourquoi tu es persévérant? Pourquoi tu es gentil? Ben parce que Christ vit en moi. Et je ne veux pas être comme tout le monde qui se plaint du boss. Non, je veux être celui qui honore le boss. Et ce n'est peut-être pas le meilleur boss, mais en même temps, c'est celui que Dieu a mis au-dessus de moi. Et les autorités sont instituées de Dieu. Et c'est pour ça que je dois les respecter. Et je veux servir. Et mon témoignage va peut-être plus briller justement quand il fait noir. Et si tu es dans une job en ce moment, tu te dis, ah, j'aime tellement pas. Dieu peut travailler ton cœur en ce moment. Ça peut être une saison de transition, mais Dieu dit, si tu honores ma parole là où tu es, si tu donnes ton 100%, si tu fais tout avec excellence, tu vas briller pour moi. Et si tu commences à témoigner, je te donnerai par mon Saint-Esprit des paroles que tu vas donner aux autres. Et si les gens nous reconnaissent comme une église qui sert la société, qui est là non pas pour essayer de gagner le plus de profit, mais au contraire, essayer d'être là pour être ceux qui soutiennent le plus, qui aident le plus, qui partagent le plus, qui encouragent le plus, ça changerait le monde. Et à nous ici, une église là, avec nos deux réunions à plus de 500 personnes, je crois réellement qu'on peut changer la face de là où on est, à notre job. Parce que si Dieu nous a placés là, c'est que nous devons être la lumière là où il nous a placés. Amen. Alors qu'on puisse ensemble aujourd'hui dire, Seigneur, parce que toi tu as tout donné, à la croix tu as donné ce que tu avais de meilleur. Moi aujourd'hui, je veux te rendre mon meilleur en toute chose. Est-ce qu'on pourrait fermer nos yeux un instant alors que je vais prier pour vous? Il y a des personnes aujourd'hui peut-être qui se disent, et alors que je finissais la première réunion, il y a des gens qui sont venus en disant, ça allait vraiment mal en ce moment, mais la parole est venue me confronter à aujourd'hui, c'est pas ce que je fais qui doit me dicter mon attitude, mais c'est pour qui je le fais. Et il y a des personnes qui sont venues en disant, mais je veux vraiment reprendre une bonne attitude et puis aller et puis ne pas me plaindre, mais au contraire être reconnaissant et apporter la bonne nouvelle autour de moi. Si aujourd'hui c'est ton désir, juste dans ton cœur, dis, Seigneur, change ma perspective. Si en ce moment, je suis sur une mauvaise voie, si j'ai une mauvaise attitude, si je n'ai pas compris ce que tu voulais pour moi, aide-moi à avancer dans ce que tu veux. Confronte-moi aujourd'hui. Et la parole vient et elle libère. Si aujourd'hui, tu as besoin peut-être de dire, Seigneur, tu me mets des rêves à cœur depuis longtemps, mais je les mets de côté juste parce que ben, je suis paresseux ou je suis perfectionniste. Je veux tellement bien le faire qu'en fait, je ne commence pas parce que j'ai peur de ne pas le faire exactement comme je voudrais. Peut-être Dieu te dit, mais commence à le faire. Par la foi, fais un pas. Et tout, Dieu va subvenir à tout. C'est lui qui donne la force, c'est lui qui donne la motivation. C'est lui qui va accomplir en toi ce qu'il a commencé et ce qu'il a placé dans ton cœur. Dieu va t'aider à l'accomplir. Il y a peut-être des personnes ici qui n'ont même pas encore donné leur vie à Dieu et qui disent, si Dieu a donné son meilleur pour moi, moi je veux l'accepter. Aujourd'hui, il faut que tu entendes la bonne nouvelle que Dieu t'aime tellement qu'il t'accepte tel que tu es. Mais il t'aime tellement qu'il ne veut pas que tu restes tel que tu es. Alors viens à lui, demande du pardon pour qui tu es, pour les péchés que tu portes. Mais remercie-le parce qu'à la croix, il a déjà porté tes péchés. Et son pardon est disponible. Sa grâce veut complètement te changer ta vie. Que tu ne sois plus quelqu'un qui essaye d'attraper Dieu par tes propres forces, mais non, qui fait juste s'abandonner à ses pieds en disant, « Seigneur, merci pour ce que tu as fait. Tout a été accompli. Et je veux juste marcher sous ta grâce maintenant. » Accepte le pardon de Dieu. Demande-lui pardon. Et maintenant, ta vie va être complètement changée. Alors, dans ton cœur, fais juste dire, « Seigneur, pardonne-moi pour qui je suis. Mais je veux que tu viennes habiter dans mon cœur. Que ton esprit change ma pensée, change mon cœur, change ma destinée. Et que l'Esprit de Dieu vienne témoigner à ton esprit que tu es enfant de Dieu. Parce que celui qui confesse de sa bouche que Jésus-Christ est Seigneur, il y a quelque chose de spirituel qui vient. Ton cœur est changé complètement. Ton éternité maintenant est avec Christ et avec nous, la famille de Dieu. Et Dieu veut te donner une identité, non seulement dans ce que tu es spirituellement à l'Église, mais aussi spirituellement à ton travail. Que dans tous les domaines de ta vie, tu sois reconnu comme quelqu'un qui brille pour la gloire de Dieu. Non pas avec paresse ou avec démotivation, mais avec excellence, avec une joie, avec reconnaissance. Parce que tout ce que je fais, je le veux faire pour la gloire de Dieu. Seigneur, merci. Merci pour ta parole, Seigneur Jésus, qui est profonde, mais qui est simple. Merci parce que ta parole est vivante pour nous aujourd'hui, un dimanche à l'église, mais elle est vivante pour nous demain à la job. Elle est avec nous, Seigneur, vivante quand on est avec nos épouses, avec nos enfants. Seigneur, dans notre célibat, Seigneur, dans toutes les saisons de notre vie, tu es là avec nous et tu veux nous apprendre à comment mieux vivre selon ta parole. Seigneur, réorganise notre agenda si en ce moment il n'est pas à ta gloire. Seigneur, donne-nous des rêves. Seigneur, rappelle des rêves à des personnes en ce moment, Seigneur, qui attendent et qui sont passives, alors que toi, tu voudrais, Seigneur, qu'elles se lèvent et qu'elles accomplissent quelque chose. Seigneur, viens nous donner, à nous, à cette église, viens nous donner, Seigneur, d'être un soutien pour celui en ce moment qui vit une épreuve à la job. Seigneur, qu'on puisse prier pour lui et qu'il puisse voir un miracle arriver. En ce moment, Seigneur, je te prie pour des personnes qui ont envie de tout quitter. Seigneur, donne-leur la vision pour toi. Seigneur, il y a des changements de saison parfois, mais des fois, tu nous demandes d'être là et de persévérer là où tu nous places. Alors donne, Seigneur, ton esprit, Seigneur, qu'il vienne et combler chacun de nos besoins. Parce qu'on est là pour toi, Seigneur. Et tout ce qu'on veut faire dans cette vie, Seigneur, on veut te proclamer roi, Seigneur, jusqu'au jour où tu reviens nous chercher. Et Seigneur, là, on va célébrer avec toi, avec tous les saints. Et dans ta présence, Seigneur, pour l'éternité, on chantera ta gloire. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié et tout le monde dit Amen. Est-ce qu'on peut applaudir notre...